Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Je maintiens sur la base des informations dont je dispose le délai d'injection entre deux injections Pfizer à 21 ou 28 jours, c'est-à-dire 3 à 4 semaines.
Olivier Véran refuse d'allonger le délai entre la première et la deuxième dose du vaccin Pfizer. Pourquoi cette prudence du ministre de la Santé ? Explication dès le début de ce journal. Sanofi la joue collectif face à la pandémie. Comme Europe 1 vous le révélait il y a quelques jours, le laboratoire français va bel et bien aider l'un de ses concurrents à produire son vaccin contre le Covid. Alors qu'Emmanuel Macron temporise sur la question d'un troisième confinement, des parlementaires s'agacent de ne pas être consultés davantage face à une telle décision. Un nom froid et implacable, c'est la réponse qu'a obtenue la comédienne Stéphanie Bataille qui demandait à être aux côtés de son père mourant du Covid à l'hôpital. Aujourd'hui, elle se bat pour qu'aucune famille ne subisse plus jamais ce manque d'humanité. Vous entendrez son témoignage poignant. Dans ce journal également, les enseignants dans la rue aujourd'hui pour demander davantage de moyens et dénoncer la gestion de la crise sanitaire à l'école. Huawei choisit la France pour sa première usine hors de Chine. 500 emplois à la clé. En Alsace, on se réjouit. Et puis le sprint final. Pour les marins du Vendée Globe, le leader est à moins de 700 km des Sables d'Olonne. Arrivée prévue demain, où les attend de pied ferme notre envoyée spéciale Corinne Boulou. La météo, prudence, ce soir dans le Grand Est, les Ardennes, la Haute-Marne et la Meuse ont été placés en vigilance orange neige-verglas. Demain, le temps va se dégrader avec un ciel gris sur pratiquement tout le pays, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,93% à 5 523 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de Boursier.com. L'interview éco, dans 20 minutes, le groupe français Air Liquide a inauguré au Canada sa plus grosse unité de production d'hydrogène vert au monde. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Pierre-Étienne Franc, le directeur des activités hydrogène d'Air Liquide. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Alors que le nombre d'hospitalisations liées au Covid continue d'augmenter et que les Français s'impatientent de recevoir une injection, le gouvernement choisit la prudence concernant le vaccin Pfizer. Le délai pour recevoir la deuxième dose va rester inchangé, pas au-delà de 4 semaines. La Haute Autorité de Santé avait pourtant indiqué qu'on pouvait retarder la deuxième injection, mais Olivier Véran a expliqué tout à l'heure faire le choix de la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Victor Dolande ?
Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas de certitude sur l'immunité conférée par la première injection. Les remontées de terrain, notamment en Israël, où la population a été massivement vaccinée, ne sont pas suffisamment bonnes. Les personnes de plus de 60 ans, notamment, qui ont reçu la première dose du vaccin Pfizer, n'avaient pas assez d'anticorps neutralisants. Ils n'arrivent qu'en nombre suffisant à partir du rappel vaccinal. Lors d'une conférence de presse ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a rappelé aussi les autres incertitudes qui planent pour retarder justement la deuxième dose 6 semaines après la première.
Un impact mineur sur le rythme de la vaccination en France, en tout cas à 2 ou 3 mois. L'absence d'études cliniques sur une administration à 42 jours du rappel de vaccination. La faiblesse des connaissances scientifiques sur la protection des personnes entre deux injections. Et l'absence de données permettant de croire à la protection des personnes entre deux doses face à la menace des variants.
En l'absence de consensus scientifique, Olivier Véran joue donc la sécurité. Il rappelle au passage qu'à l'exception de l'Angleterre et du Danemark, tous les autres pays européens ont conservé la même stratégie, c'est-à-dire un laps de temps de 3 à 4 semaines maximum entre les deux injections du vaccin Pfizer.
Merci Victor Dolande. Et toujours au sujet de ce vaccin, on a eu ce soir la confirmation d'une information qu'Europe 1 vous révélait il y a quelques jours. Sanofi va bel et bien prêter l'une de ses usines pour produire le vaccin Pfizer-BioNTech. Et ce n'est pas rien, Emmanuel Duteil.
Oui, et c'est historique dans ce monde très concurrentiel de la pharmacie. Concrètement, Sanofi va mettre à disposition de Pfizer-BioNTech son usine de Francfort en Allemagne. Alors, je suis sûr que vous dites, mais pourquoi donc cette usine en Allemagne ? Parce que tout simplement, elle est à côté du siège de BioNTech, qui est une biotech allemande. La production va débuter au mois de juillet. Sanofi devrait pouvoir fournir plus de 100 millions de doses d'ici à la fin de l'année. Ces doses seront destinées à l'Union européenne et donc en partie à la France. La direction de Sanofi, avec qui j'étais ce soir, le reconnaît. Face à une telle crise, on doit le faire. On ne doit pas avoir de regrets. En effet, le vaccin de Sanofi a du retard. La direction vise une mise sur le marché, si tout va bien, au dernier trimestre de cette année. Oui, on aura 5 mois de retard, mais on peut aussi dire que l'on aura 4 ans d'avance par rapport au temps normal pour produire un tel vaccin. On est en tout cas très confiant dans notre vaccin, précise ce soir Paul Hudson. Pour le patron monde de Sanofi, le vaccin français pourrait être plus efficace contre les mutations du virus.
Merci Emmanuel Duteil. On vous retrouve dans quelques minutes pour l'interview Écho. L'Élysée continue de temporiser sur la question d'un éventuel troisième confinement. Comme nous vous le révélions dès hier soir sur Europe 1, Emmanuel Macron ne prendra pas la parole avant le début de la semaine prochaine. Le chef de l'État attend les derniers chiffres sur les effets du couvre-feu à 18h. En attendant, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à l'exécutif de ne pas reconfiner. Il y a d'un côté les patrons. Une PME sur deux estime ne pas être en capacité de supporter un troisième confinement, selon une étude de la CPME. Et puis de l'autre, il y a certaines personnalités politiques, comme le président du Sénat, très inquiet des conséquences de cette mesure sur les Français. Gérard Larcher demande à ce que le Parlement soit davantage associé aux décisions qui seront prises. Opinion partagée par le patron des députés LR, Damien Abad.
Le confinement n'est pas inéluctable. On peut encore l'éviter. Il faut pour cela avoir une vraie stratégie sur le tracé testé isolé, qui est très important. Et il faudrait accélérer la politique de vaccination. Donc à ce stade, je pense que si on peut éviter le confinement, ça serait une bonne chose. Ce qui me gêne, ce n'est pas l'hésitation du président de la République, c'est les discours totalement contradictoires que l'on entend des mêmes personnes parfois en 24 heures d'intervalle. Ça, ça perturbe les Français, ça crée de la confusion, ça crée un climat très anxiogène. Je crois qu'il est essentiel que le Parlement soit associé. Mais vous savez, même s'il n'y a pas de décision de reconfinement, il nous faudrait un débat régulier, hebdomadaire, ici au Parlement, pour pouvoir discuter de ces questions sanitaires. Qu'on a un moment de débat pour échanger, pour suivre. On entend tout sur les vaccins, sur AstraZeneca, sur les difficultés que l'on a. Donc au-delà de la question du reconfinement, c'est très important que le Parlement soit associé.
Le président des députés LR, cet après-midi à l'Assemblée nationale, il répondait aux questions de Claudia Bertram. Venons-en maintenant à ce témoignage très fort que vous avez pu entendre ce midi sur Europe 1. Celui de la comédienne Stéphanie Bataille. Elle n'a pas eu le droit de dire adieu à son père, décédé du Covid au début du mois à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Virus qu'il a attrapé après avoir été admis. Au micro de Patrick Cohen, Stéphanie Bataille souhaite une prise de conscience sur la réalité que vivent au quotidien des milliers de familles. Écoutez.
J'ai vu un établissement où il manque du personnel, où il n'y a pas de gel hydroalcoolique à l'entrée. Il n'y a pas, le ménage n'est pas assez bien fait. Évidemment, c'est très important de parler de ça. Mais moi, je voudrais être le témoin de ces milliers de gens qui sont partis de façon indigne, avec des familles qui sont dévastées. Je ne veux plus que ça existe. Je serai la porte-parole jusqu'au bout. Je veux qu'il y ait de la dignité. Attraper déjà la Covid à l'hôpital, c'est quand même fou.
Que se passe-t-il quand on apprend que votre père est positif au Covid ?
Il a été placé en unité Covid, formidablement reçu par des médecins, mais avec une direction au-dessus, avec interdiction d'aller voir les patients qui ont la Covid. Quand on dit « on aimerait voir notre père », on vous répond, et je dois le dire, c'est vrai, « non ». C'est non. Ça n'existe nulle part. On a réussi à rentrer en contact avec lui, mon frère, ma mère et moi. Et grâce à un écran qui appartient à l'hôpital. Et là, il nous demandait « faites-moi sortir, je vais crever ». Comment c'est possible ? Mon père est parti en martyr. Évidemment, c'est pour lui que je me bats, pour sa mémoire.
Et en vous réclamant en réclamant ses enfants.
Ah mais bien sûr.
Le témoignage bouleversant de la comédienne Stéphanie Bataille qui soulève cette question. Comment est-il possible de vivre pareille situation un an après le début de l'épidémie ? Si ces scènes étaient malheureusement courantes lors de la première vague, on pensait que des enseignements avaient été tirés. Jean-Gabriel Bourgeois a joint Djilali Hanan, le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches en banlieue parisienne. Il lui a demandé s'il y avait des consignes nationales pour interdire les visites. Écoutez sa réponse.
Il n'y a pas de disposition nationale qui interdise que les patients atteints de Covid-19 ne puissent recevoir la visite de leur famille. Il y a un an, lorsque la pandémie a commencé en France, effectivement, les visites aux patients, en particulier en réanimation, étaient strictement interdites à tous les membres de la famille. On sait maintenant que cela a été une erreur. Et donc, aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs mois, les visites sont autorisées, bien évidemment, voire même encouragées dans mon service, car on sait que ces visites des familles à leurs proches hospitalisés en réanimation sont importantes à la fois pour les familles et à la fois pour le patient.
Le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garges, joint pour Europe 1 par Jean-Gabriel Bourgeois. Je précise que la PHP s'est engagée à répondre à la famille de Stéphanie Bataille. Crise sanitaire mal gérée, prof mal payé, voilà quelques-uns des slogans que l'on a pu entendre aujourd'hui dans les rues de plusieurs villes de France. Quelques milliers de personnels de l'éducation nationale, rejoints parfois par des lycéens et des étudiants, ont manifesté pour dénoncer leurs conditions de travail dans cette période difficile. Stéphane Place, vous leur avez tendu votre micro européen dans les rues de Bordeaux.
Oui, dans le cortège aujourd'hui, c'est de reconnaissance, de revalorisation dont parlaient ces enseignants qui, s'ils ne réclament pas uniquement des augmentations, estiment toutefois qu'elles sont légitimes, en particulier dans la période que l'on traverse. C'est en tout cas ce que défend Nicolas, professeur des écoles en Gironde.
Les enseignants, ils ont été au front aussi pendant le premier confinement, pendant le deuxième confinement aussi. On reçoit des courriers pendant les week-ends, on est H24, et puis il y a bien de l'argent aussi pour les entreprises, pourquoi il n'y en aurait pas pour les fonctionnaires? C'est pas compliqué, bac plus 5, 20 ans de carrière, 2000 euros, 2100 euros, après impôts, net.
Un peu plus loin dans la manifestation, Stéphanie, elle enseigne l'anglais dans un collège des Landes.
Si on est là aujourd'hui, c'est pour les salaires, mais pas que, c'est avant tout pour les gamins. On est essentiel, tout comme les soignants, les policiers et bien d'autres métiers. On a besoin de nous, mais on peut voir tous les graphiques de l'OCDE, notre salaire est misérable.
Et d'ailleurs, insiste Olivier, professeur de mathématiques à Bordeaux, de meilleures conditions de travail, c'est favoriser la réussite des élèves.
Il y a une surcharge d'effectifs, puisqu'on passe quand même régulièrement à 32, voire 33 élèves dans chaque classe, ce qui dégrade considérablement l'ambiance de travail pour les élèves. Hein. Les élèves ont les masques, il y a des protocoles qui sont mis en place, mais en dehors du protocole sanitaire, de toute façon, dans une classe de 35 mètres carrés à 32 ou 33 élèves, de toute façon, ce ne sont pas de votre.
Garantir la qualité du service public et donc l'égalité des chances, c'est ce qu'ont martelé ces enseignants.
Le reportage de Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. L'actualité judiciaire ce soir, c'est cette plainte pour viol à l'encontre d'Olivier Duhamel. Le frère jumeau de Camille Kouchner a décidé de poursuivre pour la première fois son beau-père. Il a confirmé aux enquêteurs les agressions sexuelles répétées qu'il a subies adolescent et que sa sœur a révélées récemment dans un livre.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
C'est désormais officiel, Huawei va ouvrir sa première usine hors de Chine en France. Le controversé géant des télécoms a choisi l'Alsace et plus précisément le site de Brumath près de Strasbourg où seront produits à terme des antennes relais, notamment 5G. Mélina Fachin, vous êtes notre correspondante dans la région où l'on a ce soir le sourire.
Oui, le président de la région Grand Est s'est félicité de l'implantation de cette usine à Brumath. C'est un projet à 200 millions d'euros et dans le contexte actuel, un signal très fort, estime Jean Rotner.
Vous le savez, nous avons été très sévèrement touchés par l'épidémie qui nous concerne toujours. Nous avions besoin aussi de renouer cette confiance, d'adresser des signes à nos chefs d'entreprise en disant plus que jamais que nous sommes toutes et tous mobilisés.
À terme, 500 emplois vont être créés. Au moins 80% des salariés seront français, promet Huawei, et la plupart viendront de la région. L'Alsace présente aussi de nombreux atouts pour le groupe chinois, assure Jacques Biot, le président du conseil d'administration en France.
D'abord parce qu'elle est magnifiquement placée au cœur de l'Europe, qu'elle dispose d'un tissu humain, social, industriel, extraordinairement riche.
Et quand on lui parle des craintes d'espionnage industriel de la part de Huawei, il balaye vite la question.
Le site a été choisi sur proposition des pouvoirs publics parmi 50 autres sites.
Les travaux de construction de cette usine devraient démarrer l'année prochaine pour une mise en production courant 2023.
Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Une étude alarmante, une de plus sur le réchauffement climatique. La fonte des glaces s'est accélérée de 65% entre 1994 et 2017, selon des chercheurs britanniques, soit le pire scénario anticipé par le GIEC. Au total, sur cette période, 28 000 milliards de tonnes de glace ont disparu, soit l'équivalent d'une couche de 100 mètres d'épaisseur recouvrant tout le Royaume-Uni. Eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont quitté les eaux de l'Antarctique. Les skippers de tête du Vendée Globe approchent à vitesse grand V des Sables d'Olonne, où l'on vous retrouve, Corinne Boulou. Corinne, ce n'est plus qu'une question d'heure avant que les voiles des navigateurs apparaissent à l'horizon.
Oui, alors ici, on sent que le dénouement approche. Hein. Demain soir, le premier monocoque devrait montrer le bout de son nez au large des Sables d'Olonne. Au dernier pointage, à moins de 700 km de l'arrivée, Charlie Dalin conserve l'avantage sur Boris Herman. Plus au nord, en troisième position, Louis Burton, suivi par Thomas Ruyant et Yannick Bestaven. Après 36 jours aux commandes de la course, Charlie Dalin, au large du Cap Finistère, à la pointe de l'Espagne, s'apprête à plonger dans le golfe de Gascogne pour rejoindre la Vendée. Interrogé par le PC Course, il se dit trop concentré sur cette folle fin de course pour penser encore à sa dernière nuit en mer.
Ça fait tellement longtemps que je suis en mer que j'ai oublié que l'aviateur existait vraiment. Hein. Et voilà, ma norme, c'est être sur Apivia, c'est être sur mon bateau. Et j'arrive pas du tout, mais du tout, à me dire que l'arrivée est imminente. Je suis vraiment extrêmement concentré sur les heures qui viennent, là, sur tous les obstacles qui me restent à franchir. Et voilà, c'est un peu mon état d'esprit du moment.
Charlie Dalin, bien parti pour franchir le premier la ligne d'arrivée, est lancé aussi dans un contre-la-montre pour éviter que les bonifications accordées à Boris Herman et Yannick Bestaven pour le sauvetage de Kevin Escoffier ne viennent contrarier son projet de gagner le Vendée Globe. Il doit mettre Boris Herman à plus de 6 heures derrière lui et Yannick Bestaven à plus de 10 heures et 15 minutes pour pouvoir s'imposer en temps réel et en temps compensé. Il va falloir donc sortir les calculettes aux arrivées demain soir.
Merci Corinne Boulot, envoyée spéciale d'Europe 1 au Sable d'Olonne. Corinne qui va donc nous faire vivre cette arrivée du Vendée Globe. On passe à la météo. Attention, 3 départements du Grand Est ont été placés en vigilance orange. Il s'agit des Ardennes, de la Haute-Marne et de la Meuse. Neige et pluie verglaçante sont attendues dans la nuit. Anissa Haddadi, le temps demain sera gris et maussade.
Avec pas mal de nuages gris sur tout le pays, demain, Julien, il n'y a qu'au bord de la Méditerranée et en Corse que le soleil fera quelques apparitions. La tramontane en plus reste sensible avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Ailleurs, eh bien, sur toute la France, demain, attention aux brumes et aux brouillards, surtout au nord de la Seine, des brumes qui pourront être glissantes sur les routes. Dans l'Est, des Vosges jusqu'aux Alpes, il neige à basse altitude en début de journée, puis sur les reliefs dans l'après-midi. Attention dans les Alpes et le Massif central au risque d'avalanche assez important demain. Dans l'après-midi, il pleut de la Bretagne au Pays Basque et il pleut également sur les Alpes. Les températures, elles sont fraîches encore demain matin avec moins 3 à Belfort, moins 1 à Saint-Étienne, 0 à Lyon et Strasbourg. 2 degrés pour Marseille, 6 à Bordeaux, 3 petits degrés pour Paris. Et puis dans la journée, il va faire un petit peu plus doux sous les nuages. 6 à Dijon, 8 à Grenoble, 11 à Paris et Lille, 15 à Nîmes et 18 pour Perpignan.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Le groupe français Air Liquide a inauguré au Canada la plus grosse unité de production d'hydrogène vert au monde. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Pierre-Étienne Franc, le directeur des activités hydrogène d'Air Liquide. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street reste à un très haut niveau, mais les marchés sont restés prudents ce soir.
Oui, on termine finalement sur une baisse symbolique. Le Dow Jones perd un tout petit 0,07%, 30 937 points. Moins 0,07% aussi pour le Nasdaq, 13 626 points. Prudence en attendant le verdict demain pour les stars Apple ou Tesla. En tout cas, les premières publications de résultats financiers sont bien accueillies. C'est le cas de Johnson & Johnson. Le titre bondit de 2,7%. Les résultats de son candidat vaccin à dose unique contre le Covid sont très attendus. Ça devrait tomber la semaine prochaine. Et puis ça monte aussi pour le groupe 3M avec là aussi un effet Covid. Les résultats sont dopés par les ventes de masques. 3M est un des plus gros producteurs dans le monde. Le titre gagne plus de 3%. Et puis, côté devise, l'euro est en petite hausse, plus 0,2%, 1,2170.
Après un passage à vide, le marché parisien reprend de la hauteur ce soir. Le CAC 40 retrouve les 5500 points.
Oui, après 3 séances compliquées, le CAC 40 se reprend en hausse de 0,9%, 5523 points. Les investisseurs se sont beaucoup inquiétés hier d'un possible reconfinement en France. Mais la piste semble repoussée, ce qui rassure les marchés, en tout cas pour le moment. Ça monte ce soir pour le secteur bancaire qui profite des bons résultats du groupe suisse UBS. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole gagnent environ 2%.
Très belle séance pour un fabricant de parfums qui porte très bien son nom, Interparfums.
Interparfums qui a relevé son objectif de marge d'exploitation pour cette année après des ventes robustes. Résultat applaudi donc pour la société qui exploite des noms de marques de luxe tels que Jimmy Choo ou Montblanc. Le titre grimpe de 8%. Ailleurs en Europe, c'est du vert ce soir pour les marchés. Plus 0,3% pour Londres, plus 1,6% pour Francfort. Madrid gagne 0,9%, Milan plus 1,1%, Bruxelles plus 1%. Et puis à Paris, le CAC 40 gagne 0,9% ce soir.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à demain Claire. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Pierre-Étienne Franck. Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes directeur activité hydrogène monde chez Air Liquide. Air Liquide, hein, c'est le numéro 1 mondial, notamment de l'hydrogène. Et vous êtes bien évidemment l'un des plus beaux groupes français. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous venez d'annoncer un développement massif sur l'hydrogène vert, puisque vous annoncez là aujourd'hui le démarrage de votre site à Bécancour. Alors c'est où Bécancour ? C'est au Québec, au Canada. Avant d'entrer dans le détail de ce projet, c'est quoi de l'hydrogène vert ?
Alors, l'hydrogène n'a pas de couleur, mais la manière dont on le produit a un impact sur les émissions de CO2. Aujourd'hui, pour faire de l'hydrogène, il y a deux méthodes principales. Il y a une première méthode qui consiste à casser la molécule de gaz naturel, c'est la méthode la plus couramment utilisée, qui est très efficace, mais elle émet du CO2. Donc cet hydrogène-là, on a tendance à dire, quand on le produit, il est pas vert. Par contre, si je fais l'hydrogène en cassant la molécule d'eau, qui est l'autre endroit, l'autre molécule dans lequel on trouve beaucoup d'hydrogène, par électrolyse, en utilisant une source d'énergie qui, elle, est renouvelable, alors on tente à dire que cet hydrogène est vert. Mmh. Et c'est exactement la situation de ce que nous démarrons à Bécancour aujourd'hui au Canada, et que nous allons pouvoir répliquer dans tout un tas d'autres pays, notamment en France.
Oui, parce que là, ce que vous venez d'annoncer est quand même gigantesque. Hein. Vous venez d'annoncer et vous venez d'inaugurer la plus grande unité du monde de production d'hydrogène décarboné. Quand on est français, qu'on s'appelle Air Liquide, qu'on est l'action de bons pères de famille par excellence depuis des générations, pourquoi on fait ça au Canada et pas en France ?
Alors, c'est une question d'opportunité. En fait, il se trouve que sur ce site, on avait déjà un certain nombre d'équipements disponibles et qu'il était possible de réutiliser une partie de ces équipements et très rapidement de démarrer une unité de cette taille-là, 20 MW, qui effectivement, sur cette technologie-là d'électrolyse, est une première mondiale. On avait en plus accès immédiatement à des sources d'hydroélectricité permettant d'avoir une énergie totalement décarbonée, une énergie renouvelable. Et donc, et par ailleurs, le partenaire sur cette opération était d'origine canadienne. Donc l'ensemble faisait qu'il y avait une opportunité fabuleuse, qu'on a saisie. Mais l'objectif, et d'ailleurs on l'a annoncé il y a quelques jours, l'objectif c'est de faire encore plus gros assez vite en France, puisqu'on a annoncé un partenariat dans une société qui s'appelle H2V, avec un objectif non pas de faire 20 MW, mais 200 MW le plus vite possible, et probablement toujours avec le même type de technologie.
Le plus vite possible, ça veut dire quand en France ?
Ah, en France, ça dépendra, vous savez, du processus d'attribution des supports publics pour démarrer ce genre de projet qui sont très gourmands en investissement. Mais si on arrive à pouvoir développer ce projet dans les deux ans à venir et le démarrer dans les années 2023-2024, ce sera une très bonne chose.
Oui, parce que là, dans tous les cas, c'est très important d'aller vite. Hein. La France s'est fixée comme objectif de faire partie des nations les plus en pointe donc sur l'hydrogène vert. On fait encore aujourd'hui l'hydrogène classique, mais là, c'est donc d'accélérer sur cet hydrogène vert. Et vous, Air Liquide, vous êtes sûrement parmi les groupes les mieux positionnés au monde pour réussir ce pari.
En tout cas, nous sommes le groupe qui essaye de, comme on dit en anglais, de walk the talk, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes ces promesses que les uns et les autres font, nous les mettons en œuvre. Nous avons été les premiers à démarrer une autre technologie qui permet de capturer le CO2 que l'on émet lorsqu'on produit l'hydrogène à base de gaz naturel, déjà en 2015, au Havre, donc là en France. Nous avons ensuite démarré, à l'époque, c'était la plus grosse unité, elle faisait seulement 1,2 MW, c'était il y a 3 ans, c'était déjà, c'était au Danemark, une unité d'électrolyse pour faire de l'hydrogène. Là, on est passé à 20 MW, donc on fait x20 3 ans plus tard, et à chaque fois, si vous voulez, on essaye de marquer les esprits et de faire avancer notre propre capacité d'investissement et de développement d'hydrogène décarboné, parce que c'est ça l'avenir.
En quoi aujourd'hui, pour que nos auditeurs comprennent bien, en quoi d'après vous l'hydrogène, et notamment l'hydrogène vert, c'est l'avenir ? Puisque par exemple, on a encore très peu de voitures à hydrogène en France, nos constructeurs ne sont à peine sur cette technologie, voire pas du tout. Pourquoi on prend tant de retard d'une certaine manière ?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant que on a pris conscience que les énergies renouvelables sont des énergies qui deviennent abordables et à des prix très compétitifs, il faut maintenant s'occuper du reste, c'est-à-dire de comment décarboner l'aval, c'est-à-dire l'industrie lourde, les transports lourds. Et pour ces métiers-là, pour ces secteurs-là, on a besoin d'une énergie très intensive, très dense, très compétitive, et c'est là que l'hydrogène est un peu incontournable par rapport aux autres technologies qui existent. Mais cet hydrogène ne permettra de décarboner ces secteurs industriels, la sidérurgie, la chimie, le raffinage, mais aussi les transports lourds, que si lui-même est produit de manière propre. C'est pour ça que l'hydrogène vert devient essentiel, alors qu'au départ, Le plus simple, c'était de faire de l'hydrogène à base de gaz naturel. C'était moins cher, c'était très efficace. Mais comme ça émettait du CO2, ce n'est plus une technologie qui va permettre de décarboner l'ensemble de l'industrie demain. Donc il va falloir progressivement décarboner tous ces procédés.
La France a décidé de mettre des milliards d'euros sur cette technologie. C'est suffisant ?
Alors, écoutez, entre 2018 et aujourd'hui, on a quand même fait un bond quantique. On était sur quelques dizaines de millions d'euros de support, alors qu'on avait une vision assez bonne et assez systémique du rôle de l'hydrogène. Maintenant, on est sur des chiffres qui sont comparables à ceux des Allemands, qui sont alignés avec l'ambition européenne, avec une volonté à la fois de favoriser l'hydrogène, la production d'hydrogène vert, mais aussi de développer les usages, comme vous le disiez, dans les transports.
Mais c'est vrai que ça commence un petit peu à se matérialiser, parce que vous êtes par ailleurs dans une co-entreprise avec les taxis Hype. Vous avez été parmi les premiers à y croire. Au début, c'était vraiment epsilonesque. Et là, en milieu, je crois, de semaine dernière, vous avez annoncé un gros développement, je crois, un rachat d'une centaine de taxis. Donc ça commence à être une réalité.
600. On a ajouté le rachat d'une société qui va nous permettre d'augmenter la flotte de près de 600 unités. Et parce que les taxis, c'est la démonstration parfaite l'intérêt de l'énergie hydrogène. Parce que vous êtes sur des mobilités très intensives, où vous avez besoin de tourner tout le temps, le plus possible, vous avez peu de temps pour recharger. Et donc l'hydrogène vous apporte une autonomie électrique de 5 à 700 km et vous ne rechargez qu'en 3 minutes votre voiture. Donc vous avez les avantages d'une voiture classique sans en avoir les inconvénients, parce que c'est une voiture électrique.
Eh bien, un grand merci en tout cas pour tout cela. Pierre-Étienne Franck, le directeur activité Hydrogène Monde chez Air Liquide, était notre invité ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. Emmanuel, que l'on retrouvera également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Ils se pencheront sur une activité qui se porte bien, le déstockage, avec l'un des grands noms du secteur, le fondateur de Showroom Privé. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Le virus de la défiance, c'est le titre de Libération qui publie un sondage sur l'action d'Emmanuel Macron face au Covid. Conclusion, 57% des Français ne font pas confiance au président pour les sortir de la crise sanitaire. Pire, 61% estiment que le chef de l'État l'a mal géré. Macron n'est pas en odeur de santé, ajoute Libé. À cette défiance contre le chef de l'État s'ajoute celle contre les vaccins dont la baisse des cadences interroge Laurent Baudin dans l'Alsace. Certes, des accidents industriels sont toujours possibles, mais la multiplication des annonces successives révisant à la baisse les objectifs des trois grands producteurs de vaccins, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, fait légitimement naître le poison du soupçon, écrit l'éditorialiste. Au printemps dernier, les cargaisons de masques se négociaient sur fond de billets verts jusque sur le tarmac des aéroports chinois. L'épisode 2 se joue-t-il en ce moment avec les vaccins, s'interroge Laurent Baudin dans l'Alsace. Si les Français sont de plus en plus critiques à l'encontre d'Emmanuel Macron et des labos pharmaceutiques, ils sont en revanche moins durs qu'avant avec les journalistes. Un frémissement de confiance, c'est le titre à la une de La Croix, qui publie comme chaque année son baromètre média, baromètre donc à découvrir demain dans La Croix. Bonsoir Olivier Delacroix. 39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin. À tout de suite.